Bonjour, bonjour, Yves au micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à la tradition et qui par conséquent vous rappellera ou vous apprendra, dans ce second cas, bienvenue, welcome, tout ce genre de choses, que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent, oui, même vous là sur votre téléphone portable. Ce jour, dans 24 notes secondes, eh bien, je suis vraiment très heureux de pouvoir consacrer une émission à l'un des plus honnêtes hommes du cinéma français. Il fut acteur, il fut réalisateur, il fut producteur, il fut tout, et il le fut toujours avec une totale bienveillance et un total engagement. C'est de Jacques Perrin qu'il s'agit, alors peut-être un nom qui, j'espère, dira encore quelque chose aux jeunes générations, mais qui fut vraiment, tout au long des années 60 à 2000, eh bien, un des grands hommes du cinéma français, avec en plus de la modestie, et ça, c'est pas toujours le cas. Jacques Perrin était né le 13 juillet 1941, Jacques Simonet, et en lui, on peut dire qu'il était vraiment dans le bain tout de suite, puisque sa maman était comédienne et que son papa était régisseur à la Comédie Française. Donc, autant dire qu'il était tombé dans le théâtre tout petit, et en plus, son oncle était un comédien connu dans les années 40-50, Antoine Balpétré. On a vu sa belle figure et ses cheveux dans le vent dans pas mal de films, et surtout sur beaucoup de scènes de théâtre. Bref, Jacques Perrin ne pouvait rien faire d'autre que d'entrer au Conservatoire d'art dramatique, ce qu'il fit, et il commence à jouer au théâtre. Et puis, il est très rapidement remarqué au cinéma. Il faut dire que c'était quand même une figure d'ange à tout point de vue. Après, j'arrête les compliments, sinon on finira par ne plus les croire. Ce qui fait qu'il commence sa carrière au cinéma en 1957, c'est-à-dire alors qu'il n'a que 16 ans, dans un film de Claude Boissol, que je n'ai pas vu, j'avoue, qui s'appelle La peau de l'ours. Mais très rapidement, il va trouver des rôles à sa mesure de jeunes comédiens talentueux. Et en 1960, Valerio Zurlini fera appel à lui pour être aux côtés de Claudia Cardinale dans La fille à la valise. À l'époque, dans les années 60, eh bien, il y avait beaucoup de coproductions entre la France et l'Italie. Alors, comme souvent dans ces cas-là, les raisons étaient financières. Il y avait des arrangements entre les deux pays qui faisaient que les taxes et la fiscalité étaient moins importantes si on avait une part équilibrée de professionnels français et de professionnels italiens, ce qui valait aussi bien derrière que devant la caméra. Ce pourquoi on réunissait donc devant la caméra la toute jeune Claudia Cardinale et le tout jeune Jacques Perrin. On va écouter un extrait de la bande originale de ce film. Elle est signée du grand Mario Nassim Bene. Ça s'appelle « La fille à la valise », un film de Valerio Zurlini sorti en 1961 dans 24 notes secondes. Thank you. Une musique vraiment minimaliste de Mario Nascimbene qui, dans les années 50-60, aura pourtant composé des musiques beaucoup plus lyriques, mais ça s'y prêtait pour La fille à la valise, un film de Valerio Zolini qui raconte l'histoire de deux solitudes, sans entrer dans les détails du scénario, celle de Claudia Cardinale et celle de Jacques Perrin, qui tous les deux étaient beau comme des dieux ou comme des déesses s'agissant de Claudia Cardinale, pour un film tout en intimité, un réalisateur, Valerio Zolini, hélas méconnu parce qu'il aura tourné assez peu de films. Il aura apparemment apprécié sa collaboration avec Jacques Perrin puisque celui-ci le retrouvera, alors je ne sais plus si c'est l'année suivante ou deux ans plus tard, c'est en 1962, donc plutôt deux ans plus tard, dans Journal Intime, un film dans lequel Jacques Perrin croisera Marcello Mastroianni qui sera pour lui, c'est lui qui le dit, l'archétype du grand acteur. Et ensuite, eh bien, on le verra beaucoup dans le cinéma italien, on le verra dans La corruption de Moro Bellini en 63 et dans quelques autres films. Aussi paradoxal que ça paraisse, tout au moins au début de sa carrière, jusqu'au tournant des Demoiselles de Rochefort, on va y revenir, eh bien, il tournera plutôt en Italie qu'en France. Et plus tard, je ne sais plus, dans les années 80, eh bien, il retrouvera Valerio Zolini à la fois comme acteur et à l'époque comme producteur, puisqu'entre-temps, il sera devenu producteur, pour la magnifique adaptation du roman de Dino Buzzati, Le désert des Tartares. Alors, on va continuer sur la carrière de Jacques Perrin, donc il se poursuit pendant ces années 60. En 1965, il tourne la 317e section de Pierre Schoendoerffer, un film tout à fait remarquable sur les souvenirs de guerre, de la guerre d'Indochine, de Pierre Schoendoerffer, qui est d'une véracité apparemment hallucinante pour ceux qui ont vécu cet enfer, et où Pierre Schoendoerffer a évidemment beaucoup mis de lui dans le personnage interprété par Jacques Perrin, avec à ses côtés Bruno Kremer. Et en 1966, eh bien, on trouve enfin Jacques Perrin dans un rôle conséquent dans un film français, puisqu'il est de la distribution de Compartiment Tueur, un film de Costa Gavras, qui est le premier film d'ailleurs réalisé par Costa Gavras. Alors, en tête de distribution, il y a évidemment des monstres, Simone Signoret et Yves Montand, mais à leur côté, eh bien, il y a Pierre Mondy, Catherine Allégret et Michel Piccoli, Jean-Louis Trintignant, Charles Denner et donc Jacques Perrin qui commence à se faire un nom dans le cinéma français. La musique de ce film est du signé et regretté, je voulais dire, du regretté Michel Magne. On en écoute un extrait, Costa Gavras, Compartiment Tueur, dans 24 notes secondes. Ah ben ça c'est bien dans la manière de Michel Magne de finir à l'abrupt un extrait de la bande originale de Compartiment Tueur, le premier film signé Costa Gavras avec Jacques Perrin. Jacques Perrin qui en 1968 eh bien, aura fondé sa maison de production, je l'ai dit. Il a fait beaucoup de choses dans le cinéma français et c'est d'ailleurs grâce à lui que Costa Gavras pourra quitter le film policier Exercice de style qui était Compartiment Tueur pour les films politiques pour lesquels il était plus doué, puisque c'est grâce à lui que Jacques Perrin, que Costa Gavras, donc grâce à Jacques Perrin, je vais y arriver, que Costa Gavras pourra tourner en 1969 Z avec Yves Montand, Jacques Perrin aussi d'ailleurs, et bien d'autres, qui sera le succès que l'on sait et le premier d'une série de films très engagés dans une époque qui l'était aussi, celle des années 70-80. Quant à Jacques Perrin, eh bien, il poursuivra en parallèle cette carrière de documentariste pour des films souvent difficiles, puisqu'il retrouvera notamment Costa Gavras pour Section Spéciale. Il sera aussi le producteur de La Victoire en chantant de Jean-Jacques Haneau, qui remporta l'Oscar du meilleur film étranger. Et en parallèle, eh bien, on le verra alors dans Les Demoiselles de Rochefort, mais je le garde pour la fin, Les Demoiselles de Rochefort, parce que c'est un de mes films de chevet. Et on le verra dans les années 70-80, et bien dans Z, déjà évoqué, dans Peau d'âne de Jacques Demy, que je viens d'évoquer sans l'évoquer, dans Le désert des Tartares, tourné en 1977, comme je l'ai dit, et cette même année, 77, il tournera dans ce qui est sans doute le plus beau film français des années 80, même si très très à droite, il faut le reconnaître, Le crabe tambour, un film de Pierre Schanderfer qui là encore évoque ses souvenirs, alors tout à la fois la guerre d'Indochine, celle d'Algérie, pour un film qui est d'une beauté absolument époustouflante, notamment pour ses scènes de mer et pour le personnage principal, le fameux crabe tambour, interprété par Jacques Perrin. Ensuite, eh bien, se poursuit une carrière, je dirais, assez éclectique. Et Jacques Perrin, comme je l'ai déjà évoqué au début de l'émission, eh bien, ne craignait pas de temps à autre de retourner en Italie, ce cher Italie, pour tourner quelques films. Il faut dire qu'en Italie, systématiquement, en tout cas à l'époque c'était comme ça, les films étaient toujours doublés, c'était jamais les acteurs en direct qu'on entendait, donc pour un Italien ça n'avait aucune importance d'entendre Jacques Perrin parler en italien, c'est pas comme certains puristes des versions originales en France. Et on va donc écouter un extrait de la bande originale d'un film tourné quelque part dans les années 90, je vais vous retrouver assez rapidement la date précise, s'appelle « Au nom du peuple souverain » et on va écouter une chanson, et cette chanson eh bien, elle est interprétée par un autre des acteurs du film qui s'appelle Nino Manfredi, j'espère que le nom ne vous sera pas inconnu. Alors, on écoute, pendant ce temps-là, je retrouve et le nom du compositeur et l'année de production du film. Ah ben je peux pas tout faire, hein, dans 24 notes, seconde.
Sai quanto è meglio morto all'infernaccio che cura pressa chi t'ha preso il cuore. Le pene dell'inferno non sono niente paragonate a quelle dell'amore, a quelle dell'amore. Se soffre meno in fondo allo sprofondo, straziato dal demonio col forcone, che fra di vivi a piagne disperato, e via che te divora una passione, e via che te divora una passione. Cammino e parlo solo come un matto, me fermo disperato e me sto zitto, me so ridotto un osso de presciutto, e prima o poi me sa che faccio il botto, me sa che faccio il botto. Se soffre meno in fondo allo sprofondo, è meglio sto all'inferno, so sicuro, che vive innamorato e resta al mondo, a dalle capocciate addosso al muro, a dalle capocciate addosso al muro. Per cui mi sa che è meglio a farla corta, me giocherò così l'ultima carta. Voglio morire stasera a bocca aperta, cantando sì, ma per l'ultima volta, ma per l'ultima volta. Se soffre meno in fondo allo sprofondo, che fra le vivi a piagne disperato, è meglio sta l'inferno e satannato, che viva il mondo ed essere innamorato, che viva il mondo ed essere innamorato.
Eh bien, vous l'avez reconnu ou pas, c'était Nino Manfredi, je vous l'avais déjà dit, dans un extrait de la bande originale d'Au nom du peuple souverain, un film tourné en 1990. Je l'ai retrouvé par Luigi Magni, la musique était signée de Nicolas Piovani. J'avoue que je ne sais pas si cette chanson, qui m'a l'air quand même assez folklorique du folklore italien, est bien signée par Nicolas Piovani, mais c'était encore donc un exemple des incursions fréquentes et fécondes de Jacques Perrin dans le cinéma italien, puisqu'à ses côtés, il y avait Nino Manfredi, mais il y avait aussi Alberto Sordi, autant dire, je dirais, la crème de la crème du cinéma italien. Jacques Perrin eh bien, poursuivit ensuite sa carrière, alors à la fois en tant que réalisateur et en tant que producteur et surtout en tant qu'acteur, mais dans les années 90, c'est plutôt la fonction de producteur qui l'emportera, puisqu'il produira un certain nombre de films comme Microcosmos, Le peuple de l'herbe, tourné en 1995, qui lui vaut d'ailleurs le César du meilleur producteur, mais aussi Himalaya, L'enfance d'un chef, en 1999, ou Le peuple migrateur, en 2001. Bon, Le peuple migrateur, c'était quand même un peu ennuyeux avec tous ces oiseaux qui volaient, on ne savait pas trop vers où. Mais bon, c'était quand même très très beau, en tout cas une illustration du talent éclectique de Jacques Perrin qui, au cinéma, eh bien, a trouvé aussi des rôles importants dans des films qui connurent un très très grand succès, notamment le fameux Cinéma Paradiso, tourné par Giuseppe Tornatore en 1988, ou Les choristes de Christophe Baratier, tourné en 2004, qui furent de très très gros succès. Et on va écouter, avant de revenir aux Demoiselles de Rochefort, on va écouter un extrait de la bande originale d'un de ses derniers films, tourné en 2018, ça s'appelle Rémi sans famille, d'Antoine Blossier. La musique est signée de Romaric Laurence. Si je vous dis tout ça, c'est parce qu'en fait, je ne l'ai pas vu. Donc, je ne saurais pas trop vous dire de quoi il s'agit, si ce n'est que, même si le titre l'indique sans l'indiquer, c'est une adaptation, la nième adaptation de Sans famille, ce roman larmoyant d'Hector Malo, paru en 1878. Et aux côtés de Jacques Perrin, eh bien, il y a Daniel Auteuil, Virginie Ledoyen, et quelques autres. Allez, on écoute un extrait. Rémi sans famille dans 24 notes secondes. Eh bien voilà, c'était charmant. Peut-être qu'on consacrera une émission de 24 secondes à Romaric Laurence. J'avoue que j'ignore tout de ce brave garçon. Un extrait de la bande originale de Rémi sans famille, un film d'Antoine Blossier sorti en 2018, qui est donc une adaptation du fameux roman français Sans famille, qui avait déjà connu un certain nombre d'adaptations au cours du temps. 2018, eh bien, c'était l'une des dernières occasions pour Jacques Perrin de se trouver devant la caméra. D'ailleurs, il jouait le rôle de Rémy âgé, mais effectivement, en 2018, si je calcule bien, puisqu'il était né en 1941, mais il avait presque 80 ans. D'ailleurs, il ne tournera plus qu'un seul film après celui-là. Ça s'appelle Goliath, un film de Frédéric Tellier tourné en 2022. Là encore, j'ai honte, mais je ne l'ai pas vu, donc je ne pourrais pas vous dire ce qu'il en est. Bon, on l'aura vu aussi beaucoup, dans beaucoup de téléfilms et autres. Il aura donc été largement producteur. Bref, quand il s'éteint le 21 avril 2022, paisiblement à l'âge de 80 ans à Paris, eh bien, on peut dire que c'est un homme qui aura... je dirais, beaucoup donné au cinéma français, à la fois par son talent devant la caméra, mais aussi par sa générosité, son engagement derrière la caméra, non pas en tant que réalisateur, mais en tant que producteur. Et ma foi, ils sont bien rares, les hommes qui arrivent à concilier, je dirais, une honnêteté intellectuelle avec une rigueur dans l'approche du cinéma. Et alors, je l'ai déjà évoqué à deux reprises ou plus dans cette émission, on ne pouvait pas ne pas se quitter en évoquant... un des rôles emblématiques de Jacques Perrin, celui qui le tenait en 1967 dans Les Demoiselles de Rochefort, un film de Jacques Demy. Jacques Demy, quelques années plus tôt, avait connu un immense et inespéré succès avec Les Parapluies de Cherbourg, dont la musique était déjà signée de Michel Legrand et dans lequel on trouvait déjà Catherine Deneuve. Catherine Deneuve, évidemment, on la retrouve aux côtés de sa sœur Françoise d'Orléac dans Les Demoiselles de Rochefort. Personne, je l'espère, n'a oublié la chanson des jumelles. D'ailleurs, elle l'était dans la vie, donc elle l'était aussi à l'écran. À leur côté, il y avait aussi Michel Piccoli, il y avait aussi Daniel Darieux, et il y avait aussi, puisque Jacques Demy portait une admiration éperdue au musical, à la comédie musicale américaine, il y avait Jane Kelly. J'aurais bien aimé être à Rochefort, quelque part en 1967, pour voir Jane Kelly dans les rues de Rochefort en train de danser et de chanter après sa rencontre avec Françoise d'Orléac. Et puis, il y avait Jacques Perrin qui jouait le rôle du poète, qui avait un idéal féminin. L'idéal féminin, nous le cherchons tous, disait un des marins à Daniel Darieux, si je me souviens bien. Et bref, c'était un personnage de marin un petit peu falot, mais tellement romantique. Et à la fin, bon, je ne vous dévoile pas la fin, moi ça me fait toujours pleurer, je vous laisse juger. Évidemment, la musique du film a été signée de Michel Legrand. Évidemment, on va écouter un extrait de cette bande originale, mais, ce n'est pas la voix de Jacques Perrin que vous allez entendre, soyons justes, c'est celle de Jacques Revaux qui le doublait. Et dans le film, la seule actrice qui à la fois jouait, parlait et chantait, eh bien c'était évidemment Danielle Darieux parce qu'elle peut tout faire. Allez, on écoute un extrait de cette bande originale, quelque chose de cultissime, Les Demoiselles de Rochefort 1967 dans 24 notes secondes.
Alors, il l'a trouvé ?
Toujours pas.
Qu'est-ce qu'il a perdu ?
Son idéal féminin.
Il ne l'a pas perdu, il ne l'a jamais trouvé, c'est pas la même chose.
Il l'a peint, paraît-il, c'est un peintre poète. Il fait son service ici.
L'idéal féminin, nous le cherchons tous. Il n'est pas le seul.
Soyez pas triste, monsieur Maxence. Des filles, après tout, il y en a plein les magasins.
Je l'ai cherché partout. J'ai fait le tour du monde, de Venise à Java, de Mania encore, de Jeanne à Victoria, de Vénus en Joconde. Je ne l'ai pas trouvée et je la cherche encore. Je ne connais rien d'elle et pourtant je la vois. J'ai inventé son nom, j'ai entendu sa voix, j'ai dessiné son corps et j'ai peint son visage. Son portrait et l'amour ne font plus qu'une image. Elle a cette beauté des filles romantiques et d'un Botticelli le regard innocent. Son profil est celui de ces vierges mythiques qui hantent les musées et les adolescents. Sa démarche ressemble aux souvenirs d'enfants qui trotte dans ma tête et danse en rêvant. Sur son front, ses cheveux sont de l'or en bataille que le vent de la mer et le soleil chamaille. Je pourrais vous parler de ses yeux, de ses mains. Je pourrais vous parler d'elle jusqu'à demain. Son amour, c'est ma vie, mais à quoi bon rêver? Je l'ai cherchée partout, je ne l'ai pas trouvée.
Il pourrait nous parler de ses yeux, de ses mains. Il pourrait nous parler d'elle jusqu'à demain. Son amour, c'est sa vie. Il a cherché partout, il ne l'a pas trouvé.
Est-elle loin d'ici? Est-elle près de moi? Je n'en sais rien encore, mais je sais qu'elle existe. Est-elle pécheresse ou bien fille de roi? Que m'importe son sang, puisque je suis artiste et que l'amour dicte sa loi.
C'est un joli portrait, mais je ne vois pas ça dans mon entourage.
24 notes secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, see you. Bye bye.